Oh non, monsieur, avec Jupiter et Uranus en Sagittaire, je ne vois aucun cambriolage chez vous dans un avenir proche.
Vous êtes sûr, hein?
Oh, bah tout à fait sûr. Vous savez, les cartes ne mentent jamais, monsieur.
Pour partir tranquille, confiez plutôt votre maison aux professionnels Vérissure. Vérissure par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Par contre, je vois quelqu'un devant chez vous avec un pied de biche en ce moment.
Pardon? Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le président de la Fondation des Bernardins est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Bertrand de Feydeau a été le maître d'ouvrage de cet énorme chantier du Collège des Bernardins, dont il a fait une institution importante de la vie intellectuelle à Paris. Avec lui, tout à l'heure, nous reviendrons bien sûr sur l'histoire étonnante de ce haut lieu. Mais pour commencer, j'aimerais vous parler de celui dont tout est parti, de Saint-Bernard en personne.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laure sur l'origine de l'expression « rouvrir la boîte de Pandore ».
Encore une expression mythologique, une source païenne, si je puis dire. Pour le moment, c'est dans l'histoire chrétienne que je vous propose de nous plonger à la rencontre d'un être tout à fait hors du commun.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ceux qui regrettent que nous consacrions depuis quelque temps pas mal d'émissions à l'histoire contemporaine vont être contents aujourd'hui, puisque je vous propose de plonger au cœur du XIIe siècle, siècle de croisades, mais aussi de divisions entre les chrétiens, puisque c'est un des grands personnages, peut-être une des plus hautes figures de ce XIIe siècle que nous allons apprendre à connaître à travers cet abbé de Clairvaux, Bernard, un des plus influents défenseurs de l'ordre cistercien. Cette influence, elle va bientôt s'étendre à toute l'Europe, vous allez le voir, et à la papauté et à la chevalerie, quand Saint Bernard défendra la seconde croisade. Quand nous nous sommes installés tout à l'heure dans ce studio, Ombline m'a dit « Mais moi ça me parle Saint Bernard » puisque l'une des jeunes sœurs de Saint Bernard s'appelait Ombline, c'était Sainte Ombline en l'occurrence. Ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon.
Oui, il y avait des lettres en plus, H-U-M-B-E-L-I-N.
Et voilà, bon, enfin, vous, on a simplifié l'orthographe. Et nous allons parler effectivement de cette famille. Bernard a eu sept petites sœurs, Ombline, mais aussi cinq frères. Il était né à Fontaine-lès-Dijon en 1090, on est dans une famille de la noblesse qui est apparentée au duc de Bourgogne. Et son père, Teslin le Roux, est un chevalier au service de ce duc de Bourgogne, de Hugues II. Quant à sa mère, à l'aide de Montbard, elle est d'une lignée de puissants seigneurs qui possèdent des terres, des châteaux, en Champagne bien sûr, et puis bien sûr en Bourgogne. Bernard fait ses études chez les chanoines de Saint-Vor, à Châtillon, sur Seine. Il ne passe pas inaperçu à l'époque, hein. Il faut l'imaginer avec des cheveux blonds, des yeux bleus, qui lui donnent un air assez magnétique. Quand on le croise, quand on le rencontre, on ne l'oublie plus. Il fait partie de ces figures comme ça qui marquent. À 22 ans, il arrive dans un petit village du sud de Dijon, à Citeaux, où se situe la première abbaye d'un nouvel ordre, cet ordre cistercien qui a été fondé par Robert de Molème, là juste avant, hein, en 1098, on est dans la plaine de la Saône. Cet ordre cistercien respecte à la lettre, et je dis bien à la lettre, c'est ce qui va faire toute la différence, la règle de Saint Benoît. Et notamment cet ordre prône l'association de la prière et du travail manuel, qui contraste avec un certain relâchement qui avait pu s'introduire dans certaines branches de l'ordre bénédictin. Bernard entre donc chez les cisterciens, avec à sa suite une trentaine de ses proches, dont ses frères. C'est-à-dire que nous sommes vraiment en présence d'une figure tellement charismatique qu'elle entraîne à sa suite les autres. C'est ça qu'il y a de plus fascinant, évidemment. Dès l'âge de 25 ans, Bernard, dont la santé est par ailleurs assez chancelante, qui n'est pas encore très expérimenté, bien entendu, il n'en est pas moins chargé par l'abbé de Citeaux, Étienne Harding, de prendre la tête d'un groupe de moines pour aller créer une autre fondation. Ils sont 12, en fait, ces moines. Il y a donc les quatre frères de Bernard, son oncle, deux cousins, c'est une affaire un peu familiale, d'autres compagnons, et ils vont fonder un monastère à Clairvaux. L'abbaye est au nord de Dijon, dans l'actuelle Aube. On est à 15 km environ de Bar-sur-Aube, environ 2 km de la voie romaine Milan-Boulogne. Très important parce que cette voie, à l'époque, est un des axes majeurs. C'est une route essentielle pour la circulation en Europe, circulation des biens et des personnes, mais circulation aussi des idées, évidemment. Le quotidien de cette nouvelle abbaye, c'est un peu austère, il faut bien le dire, puisque je vous dis qu'on suit la règle de Saint-Benoît de façon très stricte. La conversion doit être intérieure. Les moines doivent fournir un effort maximum dans tous les domaines. Des veilles incroyables, beaucoup de travail, jusqu'au jeûne. Hein. Enfin, en tout cas, l'alimentation est stricte. Longtemps, on se consume et on prie dans la faim, la soif, les jeûnes, les veilles, le froid et la nudité, dit Jean l'Ermite dans La vie de Saint-Bernard. C'est un texte qui est contemporain. Dans de nombreux travaux et de multiples épreuves pour l'âme et le corps. Outre cette dureté des travaux quotidiens, le dépouillement, la simplicité sont totales. Bernard est vêtu simplement d'une pauvre robe de laine qui n'est même pas teinte. Il porte des sandales de cuir tout à fait élémentaires et ce dépouillement que l'on voit sur les gens, si je puis dire, il est encore plus spectaculaire dans l'architecture où il prend une dimension incroyable. L'abbaye de Clairvaux présente. Alors c'est vrai que c'est d'une beauté, nous aujourd'hui ça nous renverse, on trouve ça absolument sublime. Mais dites-vous bien qu'on est dans un décor d'une très 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 grande austérité. Bernard est contre les représentations luxueuses. Voilà ce qu'il dit. Quand les yeux se sont ouverts d'admiration pour contempler les reliques des saints enchâssées dans l'or, les bourses s'ouvrent à leur tour pour laisser couler l'or. On expose la statue d'un saint ou d'une sainte et on la croit d'autant plus sainte qu'elle est plus chargée de couleurs. En guise de candélabre, on voit de véritables arbres d'airain travaillés avec un art admirable et qui n'éblouissent pas moins par l'éclat des pierreries que par celui des cierges dont ils sont chargés. Ô vanité plus insensée que vaine! Les murs de l'église sont étincelants de richesse et les pauvres vont dans le dénuement. Ces pierres sont couvertes de dorures et ces enfants privés de vêtements. Pourquoi ces peintures-là où l'on va poser les pieds? À quoi bon ces beaux dessins là où l'on attend une poussière continuelle? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on ne rigole pas tous les jours avec Saint-Bernard, évidemment. La vie est si rude là-bas que l'un de ses cousins, Robert de Châtillon, finit par quitter Clairvaux. Il s'enfuit, lui, il s'en va s'installer à Cluny où la vie est tout de même un peu moins rude. La règle sera avec le temps légèrement allégée, notamment à propos de la consommation de vin. Chacun a reçu de Dieu son don particulier, l'un d'une façon, l'autre d'une autre, explique Saint Bernard lui-même. Ce n'est donc pas sans quelques scrupules que nous entreprenons de régler pour les autres la mesure de leur nourriture. Néanmoins, ayant égard au tempérament de ceux qui sont faibles, nous croyons qu'une émine de vin suffit à chacun pour la journée. Quant à ceux auxquels Dieu donne la force de s'en passer, qu'ils soient assurés qu'ils en recevront une récompense spéciale. Que si la situation du lieu ou le travail, ou les chaleurs de l'été, demandent quelque chose de plus, la volonté du supérieur en décidera, le supérieur veillera avant tout à ne pas se laisser aller jusqu'à la satiété ou à l'ivresse. Ben ça, non, évidemment. L'abbaye, c'est peut-être parce qu'elle est justement à ce degré de pureté, d'exigence, va attirer énormément de monde. Il va bientôt falloir agrandir les lieux. Le chantier de la nouvelle abbatiale romane, elle fera plus de 100 mètres de long, hein, commence à partir de 1135. Et ce qui est à l'œuvre, c'est une révolution.
Écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, on vous retrouve Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur Saint-Bernard de Clairvaux.
Il y a énormément de nouveaux adeptes. Les gens viennent à Clairvaux, à commencer par le propre père de Bernard. Ça, c'est une victoire, évidemment. Et les conversions sont nombreuses. Il y a celle de Suger, vous savez, le célèbre abbé de Saint-Denis, qui ne porte pas encore le titre de Premier ministre du roi de France, mais qui déjà en remplit quasiment les fonctions. C'est cette conversion qui fait connaître à la cour le nom de l'abbé de Clairvaux. Parce que tant que Suger ne s'était pas converti, bon. Mais à partir du moment où il compte un disciple aussi célèbre et aussi puissant, évidemment, il devient quelqu'un. La preuve de ce rayonnement de l'abbaye de Clairvaux, un des anciens moines de Bernard va la donner en devenant lui-même pape en 1145. Ce sera le pape Eugène III. Et dites-vous qu'en, pas très longtemps, hein, en 38 ans d'abbatiat, Bernard aura contribué à la création de 68 abbayes filles de Clairvaux. Cette filiation en total comptera 165 établissements. C'est donc c'est un réseau considérable, c'est un manteau d'abbayes, si je puis dire, qui vient de naître dans le sillage de Saint Bernard, dont la célébrité est extrême. Alors on parle de guérison miraculeuse, on le voit parcourir l'Europe pour visiter les abbayes filles de Clairvaux et les principaux diocèses. Il ne va pas seulement avoir un rôle religieux, Saint Bernard, mais comprenez bien qu'il aura assez tôt un rôle politique. En 1128, l'ordre militaire des chevaliers du Temple reçoit sa règle au concile de Troyes et c'est Bernard qui est là pour rédiger, peut-être pas tout, mais une partie essentielle, tout le corps, si vous voulez, de cette règle. Il obtient aussi des responsables ecclésiastiques la reconnaissance officielle de l'ordre chargé de la protection des pèlerins en Terre Sainte. Et si les Templiers, si les Chevaliers du Temple ont acquis très vite l'extraordinaire importance que l'on sait, c'est en partie grâce à ce parrainage. Le fondateur de Clairvaux dicte pour les Chevaliers du Temple l'éloge de la nouvelle milice, dans lequel il critique, je cite, la chevalerie du siècle qui, par colère irraisonnée, appétit de gloire fumeuse ou envie d'arrondir ses terres, entreprendrait des guerres où celui qui tue pêche mortellement et où celui qui est tué périt éternellement. Comme c'est sévère, somme toute. Bernard va aussi prendre part au célèbre conflit de la papauté. On est là dans les années 1130. Les cardinaux, vous savez, sont partagés en deux factions rivales qui ont élu deux papes, hein, Innocent II et Anaclet II. Alors Anaclet II est aujourd'hui considéré comme un antipape, mais à l'époque, il y a bien deux papes. Et Bernard va trancher évidemment en faveur d'Innocent II en 1131 au concile des Tempes. Il va se rendre régulièrement en Italie pour régler les différends entre le pape et les empereurs et pour essayer de trouver une solution à ce schisme qui va prendre fin à la mort d'Anaclet en 1138. En 45, Bernard entreprend un voyage dans le Languedoc pour ramener à l'église les hérétiques néo-manichéens. On ne va pas tarder à parler des cathares, bien entendu, on en dira un mot tout à l'heure. On ne les convainc ni par le raisonnement, ils ne comprennent pas, dit-il, ni par les autorités, ils ne les reçoivent pas, ni par la persuasion, car ils sont de mauvaise foi. Il semble qu'ils ne puissent être extirpés que par le glaive matériel. Saisissez-les et ne les arrêtez pas jusqu'à ce qu'ils périssent tous, car ils ont prouvé qu'ils aimaient mieux mourir que se convertir. Je vous disais tout à l'heure que nous n'étions pas en présence d'un naturel trop souple. On va voir Saint Bernard effectuer, enfin je dis Saint Bernard, il n'est pas encore saint, vous l'avez bien compris, il est Bernard pour l'instant de Clairvaux. Il effectue un long périple dans cette lutte contre les cathares, il s'arrête à Poitiers, à Bordeaux, à Sarlat, Périgueux, Cahors, Toulouse, Albi, etc. Avec, nous dit Georges Duby, une ardente volonté de puissance qui l'animait comme elle animait tous ses amis, tous ses camarades. Bernard était de ces hommes redoutables, nous dit Duby, persuadé de détenir la vérité qui, brisant les obstacles, la fin justifiant à leurs yeux les moyens, entendent forcer leurs contemporains à vivre selon le modèle qu'ils ont forgé. C'est très dur comme vision, c'est peut-être la vision de la fin du XXe siècle, tout simplement, sur ces hommes de foi qui, effectivement, manquaient considérablement de souplesse, mais à l'époque, la souplesse n'était pas du tout considérée comme une vertu. Jamais il ne voulut entendre à être autre chose qu'un moine, nuance néanmoins Michelet. Il eût pu devenir archevêque et pape, forcé de répondre à tous les rois qu'il consultait à gouverner l'Europe. C'était un esprit plutôt qu'un homme qu'on croyait voir quand il paraissait ainsi devant la foule, avec sa barbe rousse et blanche, ses blonds et blancs cheveux, maigre et faible, à peine un peu de vie aux joues. Ça, on a l'impression que Michelet l'a bien connu pour le décrire de cette manière. Mais ce qui est certain, c'est que l'intransigeance, la foi pure de cet homme avait tout pour plaire à un historien comme Michelet, bien entendu. Bernard, s'il ne joue pas de rôle politique assumé, n'entend pas moins jouer à assumer un rôle dans les affaires intellectuelles de son temps. Et alors on va le voir, rappelez-vous, quand nous avons l'autre jour parlé d'Abélard, on a fait cette émission sur Héloïse et Abélard, évidemment, je vous ai parlé de Saint-Bernard, parce qu'il va s'opposer à Abélard. Abélard a acquis la réputation d'un grand faiseur de discours, d'un dialecticien très habile, en avance sur son temps, mais pas capable de faire la distinction entre ce qui relève de la raison et ce qui lui est supérieur, d'une certaine manière. Un concile est organisé à Sens en 1140. Le concile a pour but, il est organisé sous l'égide d'Abélard au départ, un grand intellectuel de l'époque, contre Bernard de Clairvaux. Seulement vous pouvez faire confiance à l'abbé de Clairvaux pour se défendre. Il conçoit le concile littéralement comme un tribunal et à la fin, Abélard va être condamné pour ses écrits, jugement qui du reste sera bientôt confirmé par Rome. Bernard de Clairvaux joue également un rôle très important dans le déclenchement de la nouvelle croisade, ce qu'on va appeler la deuxième croisade. Nous y venons dans un instant.
Bel après-midi sur Europe 1, vous écoutez Au cœur de l'histoire et nous attendons vos messages, vos questions sur la page Facebook de l'émission, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, par mail europe1.fr. Vous restez avec nous sur Europe 1, Au cœur de l'histoire se poursuit et Franck Ferrand, vous continuerez de nous parler de la vie de Bernard de Clairvaux.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un grand réformateur de la vie religieuse et promoteur de l'ordre cistercien est au cœur de l'histoire. Vous évoquez Franck Ferrand, Saint Bernard de Clairvaux.
Et nous sommes dans une période, évidemment, où il est question de nouveau de croisade. Il y avait déjà eu cette première croisade en 1144. Les Turcs se sont emparés d'Édesse, on est donc au-delà de l'Euphrate. C'est la première cité christianisée hors de l'Empire, c'est fondamental. Et dès l'année suivante, le roi de France à l'époque, c'est Louis VII, c'est le mari d'Aliénor d'Aquitaine. Louis VII va former le projet de voler au secours de ses principautés latines d'Orient mises à mal par les agressions turques. La décision finale est remise à Pâques 1146 et on peut dire qu'à ce moment-là, Bernard, lui, n'est pas convaincu de l'utilité d'une seconde croisade. Seulement, il compte parmi ses disciples le fameux Eugène III, enfin le pape, celui qui est devenu le pape Eugène III, qui a été moine à Clairvaux et qui va convaincre Bernard de prêcher la croisade. Alors j'ai eu l'occasion de vous raconter ça déjà, cette cérémonie, ce moment extraordinaire. On est le 31 mars 1146, le jour de Pâques. Bernard de Clairvaux est à Vézelay, vous imaginez, sur la colline inspirée. Il est dans ce paysage incroyable et il va enflammer littéralement cette foule qui est massée à Vézelay autour du roi Louis VII et des grands barons du royaume. Le prêche a lieu en plein air, bien entendu. Une estrade a été dressée au nord de la colline et il faut imaginer Bernard qui enflamme les gens, que les fidèles de Dieu et surtout les plus puissants et les plus nobles s'emploient vigoureusement à s'opposer à la multitude des infidèles, à défendre l'Église d'Orient délivrée par vos ancêtres, et s'efforcent de libérer des mains des infidèles, les infidèles de l'époque, c'est les Turcs, etc., bien sûr, de nombreux milliers de nos frères captifs. Ça, c'est le bref du pape, et c'est ce bref du pape que Saint Bernard va savoir tellement transmettre à l'assemblée qui est là. Il distribue des croix de tissu à tous ceux qui souhaitent partir, qui vont se croiser. Bernard a 56 ans à l'époque. Je vous ai dit qu'il a toujours eu une santé chancelante, qui n'a sûrement pas été arrangée par les privations et les mortifications qu'il n'a cessé de s'infliger. Et à l'époque, c'est vraiment quasiment un vieillard. Il n'en remplit pas moins sa mission et parcourt les villes et les provinces. Et on va le voir en Bretagne, et en Flandre, en Angleterre, en Espagne, que sais-je, moi, en Bavière, en Saxe. C'est incroyable ce que cet homme a pu voyager jusqu'au Danemark, jusqu'en Pologne. C'est assez étonnant. À la diète de Spire, il impose à l'empereur Conrad III, de se croiser à son tour et de partir pour la croisade. Mais cette seconde croisade conduite par le roi de France Louis VII et par l'empereur Conrad va tourner au désastre. Vous le savez, les principales raisons, ce sont la trahison des Grecs d'une part et surtout peut-être le défaut d'entente entre les différents chefs de la croisade. C'est un échec, disons-le, un échec programmé, mais Bernard n'en continue pas moins sa mission. Il s'oppose notamment par tous les moyens aux actes qui sont commis contre les Juifs. Ne touchez pas aux Juifs, dit-il, ils sont la chair et les os du Seigneur. Et on va le voir courir dans les différents endroits où l'on a dressé des bûchers à Bruges, à Fligem, à Liège, à Worms, etc. etc. Donc une certaine, il y a là un souci très, très humain de la part de Saint Bernard, ne l'oublions pas. Ça n'empêche pas les critiques de pleuvoir contre lui. « Oh, je préfère voir les murmures des hommes s'élever contre moi que contre Dieu !» dit Saint Bernard. « Volontiers je prends sur moi les reproches et les blasphèmes pour qu'ils n'aillent point jusqu'à Dieu. Je trouve bon qu'il veuille m'utiliser comme son bouclier. Je ne refuse pas d'être sans gloire pourvu qu'on ne s'attaque pas à la gloire de Dieu. » On est dans l'abnégation totale et suprême, ce qui inspire des personnalités comme le futur Saint Bernard, c'est cette défense absolue de Dieu, de la foi, quitte à eux-mêmes passer pour tout ce qu'on peut imaginer. En juin 1148, les croisés vont poursuivre en direction de Jérusalem. Ils échouent devant les murs de Damas. Le roi Louis VII a beaucoup hésité, beaucoup tergiversé dans cette affaire et l'on dit que c'est une des raisons pour lesquelles son épouse aurait décidé de finir par mettre fin à leur union. Toujours est-il que Louis VII va rentrer en France sans gloire et à la fin de cette même année, 1148, 1149, au début de 1150, c'est Suger qui va former le projet d'une nouvelle expédition. Elle n'aura jamais lieu parce que Suger finalement meurt avant que cette croisade-là n'ait vu le jour. Le 20 août 1153, Bernard effectue un voyage à Metz. Ah, on est au printemps là. On est à l'été. Il a fait son voyage à Metz au printemps. On est à l'été. Le but, c'est d'arbitrer un conflit entre l'évêque et le duc de Lorraine. Mais il est épuisé. Il ne va pas survivre à cet été 1153. Bernard finira par mourir d'épuisement, disons-le, dans son abbaye de Clairvaux, et il sera canonisé très vite, dès 1174. Alors vous savez que son corps a été un peu dispersé, parce qu'on est à la grande époque des reliques, bien entendu. Tout le monde veut son petit morceau de Saint Bernard, si je puis dire. Et si vous voulez aujourd'hui aller prier Saint Bernard, eh bien vous n'aurez pas trop de mal à trouver un petit doigt quelque part. Il y a de nombreuses châsses qui abritent aujourd'hui les reliques du saint. Bonjour Bertrand de Fédot.
Bonjour.
Nous allons parler avec vous, bien sûr, de Saint-Bernard, mais nous allons surtout parler des Bernardins et de leur principale fondation, de ce collège parisien dont vous assumez aujourd'hui la direction.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Saint-Bernard de Clairvaux et les Bernardins sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le président de la fondation des Bernardins, Bertrand de Fédot, maître d'ouvrage de la restauration du collège des Bernardins.
On a beaucoup de mal, évidemment, Bertrand de Fédot, à se resituer dans le contexte de cette époque, de ce XIIe siècle. D'abord avec une France qui ne ressemble pas du tout à la France que nous connaissons, avec un morcellement politique, avec un morcellement social également, et puis des régions qui sont beaucoup moins peuplées qu'aujourd'hui, ne l'oublions pas.
C'est vrai que la France n'a pas le visage d'aujourd'hui, mais elle a quand même des points communs avec celle que nous connaissons. C'est une France très jeune, c'est une France qui s'est développée très rapidement. On pense que la population de la France a probablement doublé entre 1150 et 1250. Et pour faire image, on peut dire que, au fond, Saint-Louis est le roi d'un peuple d'adolescents, c'est-à-dire une nation très jeune dont il est l'icône, qui l'emmène vers l'avant et qui adhèrent à tout cet idéal que leur proposent notamment les cisterciens.
Est-ce que cette règle d'airain est une des raisons du succès de Saint-Bernard, paradoxalement?
En tout cas, il est clair que la proposition faite par Saint-Bernard aux jeunes de son temps a rencontré un enthousiasme considérable, au point que le système de l'essaimage qui a structuré progressivement l'ordre cistercien a abouti à la création, certains disent, 600 ou 700 établissements cisterciens dans l'ensemble de l'Europe. Ce qui prouve que ce qui est proposé à la jeunesse de ce temps correspond fondamentalement à son désir et à sa volonté de vivre. Et ceci peut-être moins par l'aspect austère que par la proposition, j'allais dire complète, que saint Bernard fait aux jeunes, s'intéressant non seulement à leur vie, c'est-à-dire à leur vie matérielle, à leur travail, à leur métier, il était très attaché à fournir un métier aux jeunes, mais également à leur vie intellectuelle et à leur vie spirituelle. C'est probablement l'une des rares époques où on a su consacrer autant d'énergie aux trois activités de l'homme qui sont le travail manuel, le travail intellectuel et la vie spirituelle.
Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur cet aspect tout à l'heure, mais Bernard est issu d'un milieu de chevalier, hein. Il est issu de cette aristocratie guerrière, en quelque sorte. D'ailleurs, il se promène avec ses frères en armure, si je puis dire. Ce sont vraiment des chevaliers qui...
Il est issu de la chevalerie et il est effectivement à l'image de cette chevalerie. C'est la raison pour laquelle il en est un peu l'icône. Et il est également issu de cette chevalerie que l'on peut qualifier d'européenne. C'est-à-dire que nous sommes dans une organisation politique de l'Europe de cette époque qui préexiste à l'Europe des nations. Comme vous l'avez très, très justement illustré tout à l'heure, saint Bernard est un Européen, fondamentalement un Européen.
On a l'impression que les frontières ne lui pèsent pas en vérité. C'est plutôt à l'échelle de la chrétienté que s'établit son travail.
Les frontières ne lui pèsent pas parce qu'elles n'existent pas.
Oui.
Tout simplement. Et donc il parcourt l'Europe entière et on voit naître des abbayes cisterciennes, j'allais dire de l'Ukraine à la Bretagne, de l'Écosse à la Castille. C'est donc tout un maillage de l'Europe, de la jeunesse européenne, de la jeunesse du travail, de la jeunesse spirituelle qui se constitue autour de ce projet que leur propose saint Bernard et qui, encore une fois, s'attache à l'homme, à tout l'homme.
Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais il ne faudrait pas que nous fassions cette émission sans insister sur le charisme extraordinaire du personnage, qui est capable de convertir les gens, de les entraîner à sa suite, de leur faire renverser des montagnes. Il fait partie de ces êtres très rares et très précieux qui donnent de l'énergie aux autres, en quelque sorte.
Absolument. Il n'est d'ailleurs pas fondamentalement l'organisateur du système cistercien. C'est Étienne Harding qui l'est.
Bien sûr, oui.
Et comme plusieurs fois dans l'histoire, c'est la rencontre de la sagesse du pragmatisme saxon et de la spiritualité européenne qui a donné naissance à ces grandes aventures humaines. Saint Bernard, il met en œuvre, il donne l'élan et il attire au fond sur sa personne des jeunes qui se trouvent au fond très bien accueillis, très bien encadrés, très bien formés, mais dans le cadre du projet qui a été conçu par Étienne Harding, qui est en fait le véritable fondateur organisationnel de l'ordre des cisterciens.
On a bien compris le rôle essentiel de la croisade qui, en repoussant les horizons et en donnant un ennemi, si je puis dire, à la chrétienté, va la renforcer, hein, va lui donner une espèce de... va la faire flamber, littéralement. On est dans une période très intéressante sur un plan spirituel, parce que vous parliez du travail manuel, du travail intellectuel et de cette spiritualité. Elle est quand même bien ce qui domine l'ensemble et ce qui entraîne le mouvement monastique.
C'est ce qui entraîne le mouvement monastique, mais vous voyez, avec ces trois moteurs qui, j'allais dire, se conjuguent pour entraîner ce mouvement. Il y a le moteur du travail, le fait d'avoir de la nourriture, le fait d'apprendre un métier. Ces abbayes deviennent des conservatoires des métiers. Il y a le moteur spirituel, ora et labora. Le moteur spirituel qui est de consacrer son cœur, son intelligence, son âme à la connaissance de la réalité spirituelle. Et il y a cette extraordinaire effervescence intellectuelle que vous avez évoquée tout à l'heure avec Abélard et qui est le véritable renouveau de l'Europe après cette immense période d'effondrement qui a suivi la disparition de l'Empire romain.
Alors, il faut que nous venions quand même tranquillement au collège des Bernardins et à Paris d'abord. Quelle est la place de Paris dans les villes de l'époque ?
On considère aujourd'hui que Paris, au XIIIe siècle, puisque nous sommes en fait de 100 ans après la mort de Saint-Bernard, puisque le collège des Bernardins a été achevé en 1253, c'est-à-dire exactement 100 ans après la mort de Saint-Bernard. Paris, à ce moment-là, est probablement la plus grande ville d'Europe, avec, on peut l'imaginer, environ 250 000 habitants, ce qui est très peu par rapport aux grandes villes romaines. Rome elle-même, Alexandrie, qui comptait plus d'un million d'habitants.
Le Moyen-Âge est passé par là.
Mais Paris est une ville très, très active et très dynamique, surtout après le choix qu'avait fait son principal fondateur, Philippe Auguste, d'en faire la capitale intellectuelle de l'Europe, c'est-à-dire d'attirer sur ce lieu les plus brillants esprits de son temps et de jouer, au fond, la concurrence entre les intelligences pour stimuler l'Université de Paris. Et très vite, l'Université de Paris est devenue un élément d'attractivité absolument considérable. Tout ce qui se passe dans le monde intellectuel a sa racine dans Paris à partir des années 1220-1230. Et d'ailleurs, les archéologues aujourd'hui considèrent que à la fin du XIIIe siècle, près du tiers des constructions à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire dans cet espace qui est délimité,
l'enceinte de Philippe Auguste,
qui détermine un territoire qui est assez restreint, qui fait 270 hectares.
Qui a la forme d'un cœur.
Voilà. Eh bien, dans ce territoire, près du tiers des surfaces construites sont dédiées directement ou indirectement à l'université. Ce qui veut dire que ce Paris du XIIIe siècle est un véritable campus universitaire.
Mais alors attention, parce que l'université dont on parle, c'est une université où l'on fait d'abord et avant tout de la théologie.
Oui, on fait de la théologie, mais la théologie à ce moment-là n'a pas exactement le même sens qu'aujourd'hui.
Voilà,
elle est la mère au fond de l'université, et quand on fait de la théologie, on travaille aussi bien les questions spirituelles que les questions de la nature. Et d'ailleurs, ce qui donne cet élan intellectuel à cette ville de Paris, c'est justement ce choc, cette conjugaison entre ce qui résulte du travail intellectuel de l'homme, qui est la raison et qui a repris, j'allais dire, un élan considérable avec la redécouverte de la pensée d'Aristote, dont Abélard s'était emparé, bien évidemment, et ce mouvement spirituel qui est porté par la foi. Et la grande force de ce XIIIe siècle, c'est au fond de faire se confronter la foi et la raison comme étant les deux grands moteurs de l'intelligence de l'homme.
C'est assez fascinant, le mouvement, l'espèce d'énergie qui s'empare de tout cet Occident à l'époque. La ville de Paris, du nord au sud, était partagée en trois, si je puis dire. Sur la rive droite, c'était les activités marchandes, hein, sous l'égide des nôtres de Paris, des corporations, des marchands fluviaux. Et alors là, on est vraiment dans la vie la plus temporelle qui soit. Au cœur de la cité, sur la fameuse île de la cité, ben c'est le pouvoir politique quand même. Il y a le palais du roi, enfin, et l'enclos épiscopal, donc celui de l'évêque. On est vraiment au cœur de la dimension politique. Et puis, quand on va vers la rive gauche, c'est là que se situe, dans ce qu'on a appelé plus tard le quartier latin, c'est là que se situent les fameux collèges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un collège à l'époque ?
Alors, un collège, c'est un lieu qui est assez comparable à un collège aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un lieu où viennent travailler
des étudiants.
Où résident des étudiants. Alors, ces collèges, ils sont créés généralement par des grands personnages qui sont désireux que les jeunes de leur comté, de leur duché, de leur principauté soient éduqués avec les meilleurs enseignants, les meilleurs professeurs. Et donc, très souvent, d'ailleurs, ces collèges portent le nom de leur origine. On parle du collège des Poitevins, du collège des Irlandais, du collège des Écossais. Et c'est dans ce mouvement-là que le père abbé de Clairvaux, au XIIIe siècle, qui est le successeur de Saint-Bernard, décide de venir créer un collège dans Paris qui prendra le nom de Collège des Bernardins.
Alors pourquoi des Bernardins ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas des Cisterciens, tout simplement ?
C'est une question qu'on peut se poser, mais je pense que la réponse tient au fait que Étienne de Lexington, qui était aussi un Anglais, qui avait enseigné à Oxford, était très désireux de faire bénéficier les jeunes Cisterciens de cette élévation du niveau intellectuel, dont d'ailleurs d'autres ordres, et notamment les franciscains et les dominicains, bénéficiaient bien davantage. Et pour ça, il fallait aller s'installer en ville. Ce que Saint-Bernard avait largement déconseillé aux cisterciens. Il avait lui-même qualifié Paris de Grande Babylone, hein, de lieu de perdition pour la jeunesse.
Bernard détestait les villes, il trouvait que c'était un lieu de perdition.
Oui,
voilà,
oui,
c'est
absolument.
Ça.
Mais comme la vie intellectuelle se développe dans les villes, il fallait bien trouver un moyen d'y être. D'ailleurs, Saint-Bernard, lorsqu'il a proposé ce projet au chapitre général, qui était l'autorité suprême de la gouvernance des Cisterciens, s'est fait mettre en minorité. Et il a dû créer ce collège des Bernardins avec les seuls subsides de l'abbaye de Clairvaux. Et c'est probablement pour affirmer sa filiation avec Saint-Bernard, qu'il a souhaité qu'on l'appelle le Collège des Bernardins.
C'est-à-dire que la démarche qui était la sienne était tellement opposée à ce qu'on avait toujours entendu dans la bouche de Saint-Bernard qu'il fallait compenser d'une certaine manière et dire que et appeler ce collège le Collège des Bernardins pour bien montrer qu'il n'était pas en rupture ou en opposition avec l'enseignement du saint.
En tout cas, on peut l'imaginer, puisque effectivement, le terme de cistercien caractérise l'ensemble de ce qui est né du monastère de Cîteaux.
Alors, l'endroit est gigantesque. Ce qui en reste aujourd'hui est immense, mais c'était encore bien plus grand autrefois. On avait prévu d'installer combien de personnes ici?
Alors, c'était effectivement un projet très vaste. Au fond, ça devait être le vaisseau amiral de l'ordre cistercien. Et on imagine mal aujourd'hui ce que représentait l'ordre cistercien dans cette Europe du XIIIe siècle, parce que nous n'avons pas, dans notre société actuelle, de structure comparable. C'était à la fois la première puissance spirituelle, incontestablement, mais aussi la première puissance économique et la première puissance intellectuelle. Et donc, lorsque l'ordre des cisterciens décide de venir s'installer dans Paris, c'est comme si la première multinationale décidait de venir installer son siège social à Paris. Et donc, il fallait faire, pour cela, un bâtiment qui, à lui-même, projette l'image des cisterciens dans sa beauté, mais aussi dans sa sobriété, dans son élégance. Et donc, pour ceux qui avaient construit Clairvaux, Fontenay, Noirlac, Santa Cruz, oui. Heiligenkreuz en Autriche, etc., que ce collège des Bernardins soit, au fond, l'image même de l'ordre cistercien dans son ambition intellectuelle et spirituelle.
Alors ce collège, avec vous Bertrand de Feydeau, nous allons le voir naître dans un instant, se développer. Nous allons voir aussi comment il évoluera au fil des siècles.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Bernardin est au cœur de l'histoire. Votre invité Franck Ferrand, le président de la Fondation des Bernardins, Bertrand de Feydeau, maître d'ouvrage de la restauration du Collège des Bernardins au cœur de Paris.
Alors Bertrand de Feydeau, ce que nous entendons en ce moment, cette pièce chantée est très particulière en fait. Elle a un rapport avec Saint-Bernard.
D'abord c'est du grégorien, comme chacun a pu l'entendre. C'est un résurrexi, c'est-à-dire cet hymne que l'on chante le matin du jour de Pâques. Je suis ressuscité. Et merci d'avoir mis cette magnifique pièce. D'abord parce que je pense qu'elle transporte tout à fait justement dans l'atmosphère cistercienne. Et en plus, elle évoque cette résurrection aussi du Collège des Bernardins, qui, grâce à la volonté du cardinal Lustiger, a pu survenir de façon absolument inattendue.
Le cardinal Lustiger, il faut le signaler, est venu vous chercher pour que vous aidiez à cette idée, ce projet qui paraissait insensé à l'époque.
Hein. Oui, c'était un projet que l'on peut dire déraisonnable, mais il l'a porté avec une telle force. C'est lui le vrai maître d'ouvrage, ce n'est pas moi. Hein. Il l'a porté avec une telle force que nous sommes arrivés au bout des plus grandes difficultés. Et au fond, il a porté ce projet du Collège des Bernardins comme l'aboutissement de tout son travail en tant qu'archevêque de Paris, comprenant sa mission à ce tournant du siècle, ce tournant même du millénaire, comme étant celle de la nécessité d'éclairer les temps qui s'ouvraient sur, au fond, la place de l'homme dans le monde qui se prépare.
Et c'est le rôle aujourd'hui du Collège des Bernardins. Vous êtes une sorte, comment est-ce qu'on pourrait définir, une sorte de plateforme intellectuelle et de réflexion spirituelle à l'échelle mondiale?
Oui, c'est peut-être une formulation un petit peu ambitieuse, mais pourquoi ne pas la relever? Et ce qui est étonnant, c'est que, au fond, ça reprend la vocation d'origine de ce collège il y a 800 ans, à une époque où des problèmes assez similaires se posaient à cette Europe naissante. Et ce qu'a voulu le cardinal Lustiger, c'est non pas regarder avec crainte l'avenir, mais au contraire, regarder avec beaucoup d'admiration ce qui était le fruit du travail et de l'intelligence de l'homme, ouvrant des champs complètement nouveaux à sa main, à son regard, tant dans le domaine de la maîtrise des éléments matériels et de la matière, d'une façon générale, la maîtrise des sciences cognitives, la maîtrise de l'économie, l'entrée dans la mondialisation. Il fallait bien sûr soutenir tout cela, mais reprendre ce travail auquel Saint-Bernard avait appelé, c'est-à-dire accorder autant d'importance au regard intellectuel et spirituel sur cette capacité de l'homme à créer qu'à sa capacité elle-même de faire des choses matérielles. Et donc, s'interroger sur toutes ces grandes questions du monde qui se posent aussi bien dans notre corps, notre vie, notre mort, que dans la maîtrise de la matière, que dans la maîtrise des sciences cognitives, dans ce que d'aucuns appellent le surhumanisme, vous voyez.
Vous organisez, il faut dire, des rencontres, des colloques, des séminaires, vous vous rendez vous-même en déplacement, vous recevez des savants du monde entier. Il y a ce côté bouillonnement, en quelque sorte.
Il y a ce côté bouillonnement et ce côté d'ouverture à tout homme en recherche. La volonté du cardinal Lustiger était vraiment de faire appel à toutes les intelligences, aucune n'étant de trop, pour s'adonner à ce travail essentiel pour notre avenir, qui est d'éclairer l'homme sur les voies qu'il doit prendre. Et la volonté d'ouverture, elle est coessentielle au Collège des Bernardins. D'ailleurs, si vous y allez, ce que je vous invite à faire, vous verrez que vous y entrez librement.
Tout à fait.
Et gratuitement.
Ah oui, oui. C'est un lieu très accueillant. Mais il faut le dire pour nos auditeurs, c'est très facile d'aller au Collège des Bernardins et vous y serez forcément très bien accueillis. C'est vrai qu'il faut le dire.
Et donc le cardinal Lustiger avait souhaité que viennent participer à ces travaux non seulement personnalités qui avaient consacré leur vie à la théologie, des chrétiens, des juifs, des musulmans, mais aussi des scientifiques, des industriels, des financiers, des médecins, des universitaires, chacun apportant son regard sur ce monde. Et c'est le croisement de ces regards sous l'éclairage de la sagesse chrétienne qui donne la spécificité du Collège des Bernardins.
Alors ça, c'est pour le 21e siècle. Nous en étions restés au 13e, mettons aller au début du 14e siècle. Il reste quelques siècles pour faire la liaison entre les deux. Comment a-t-il évolué ce collège au moment de la Renaissance notamment?
Eh bien, il a rempli complètement sa mission et sont passés par le Collège des Bernardins des personnalités qui ont eu des rôles tout à fait significatifs dans la vie politique et sociétal. Par exemple, l'un des grands professeurs du Collège des Bernardins, Jacques Fournier, qui est un latin,
oui,
a été ensuite père abbé de Fontfroide dans le Midi, avant d'être élu pape en Avignon sous le nom de Benoît XII.
En 1334.
1334, oui, voilà. Et Jacques Fournier, c'est lui le principal constructeur du Palais des Papes à Avignon, se souvenant de son passage au Collège des Bernardins, a fait une dotation spéciale pour doter ce collège d'une très grande église, qui était d'ailleurs la seconde plus grande église de Paris après Notre-Dame à ce moment-là, donc on est au XIVe siècle, église qui sera d'ailleurs jamais terminée et qui arrivera à la Révolution dans un état assez délabré pour tout dire. Et le coup de grâce définitif lui sera porté par le baron Haussmann qui, voulant désengorger...
Oui. Avant le baron Haussmann, il y a donc quand même la révolution qui va désaffecter le collège.
Oui, absolument. C'est une phase qui est triste dans l'histoire du collège, puisque à ce moment-là, il va être transformé en prison. Il va y avoir des galériens qui vont être enfermés là, qui vont être d'ailleurs massacrés. Et puis après ça, ça va être acquis par la ville de Paris au début du XIXe siècle, transformé notamment en grenier à sel, jusqu'au moment où la ville de Paris recherche un endroit sur la rive gauche pour établir une caserne de pompiers. Et le Collège des Bernardins est pratiquement inoccupé à ce moment-là. Il est sa propriété. Et la ville de Paris confie à un grand architecte de l'époque, qui est un Allemand, qui s'appelle Jacques Hittorf, auquel on doit l'aménagement de la place de la Concorde, par exemple.
De plusieurs parcs à Paris, etc.
De la Gare du Nord. La restauration du Collège des Bernardins. Elle a transformé un collège cistercien en caserne de pompiers. C'est pas une mince affaire. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs l'extraordinaire rationalité avec laquelle a été construit ce bâtiment, parce qu'il s'est très bien adapté à cette fonction nouvelle. Le problème, c'est que Jacques Hittorf prend possession d'un bâtiment qui est pratiquement à la veille de s'effondrer et qu'il est obligé de supprimer la grande toiture cistercienne pour la remplacer par un toit très plat parisien avec un brisis, un terrasson, un couvert de zinc. Et puis, il est obligé de le larder de tirants métalliques, comme on faisait au 19e siècle, longitudinalement et transversalement, pour éviter que ce bâtiment s'effondre.
Oui, bien sûr. Et l'église, elle, a été totalement détruite. Hein.
Alors, l'église a été totalement détruite, comme je vous le disais, au moment du percement du boulevard Saint-Germain, puisque le crayon du baron Haussmann est passé juste sur l'église. Et il ne reste de cette période que la sacristie, que je vous engage à aller voir, parce que
c'est une merveille absolue.
C'est une merveille. Vous vous croiriez au Palais des Papes à Avignon. C'est une chose étonnante de voir ça en plein cœur de Paris.
Alors, on n'avait donc plus d'église, le collège lui-même très endommagé, dans les conditions que vous nous avez racontées, transformé en caserne de pompiers, nous l'avons tous connu dans cette triste situation, si je puis dire, rien du tout contre les pompiers, tellement utiles à Paris, mais enfin, le collège des Bernardins, c'est quand même bizarre de l'avoir vu comme ça, transformé en caserne. Et puis, il y a cette renaissance extraordinaire, en quelle année?
Alors, nous avons commencé à travailler en 98.
L'église a récupéré les lieux?
Non, on l'a racheté en 2002. Après qu'on ait fait des travaux très importants de recherche, notamment de sondage pour savoir comment ce bâtiment tenait ou ne tenait pas d'ailleurs, ce qui nous avait amené à un montant de travaux de l'ordre de 50 millions d'euros à réaliser. Et à ce moment-là, j'ai dit au cardinal que c'était pas raisonnable d'engager un montant aussi important sur un bâtiment dont il n'était pas propriétaire. Et donc, nous avons engagé à une discussion avec la ville de Paris. Et après des mois de discussion, la ville a vendu le collège des Bernardins à l'archevêché de Paris. Je dois dire à ce moment-là, probablement assez contente de s'en défaire, compte tenu des risques qu'il posait pour la sécurité publique.
Et donc, c'est le début de cette grande aventure aux destinées de laquelle vous présidez aujourd'hui, avec toujours de grands projets. Hein. Sur quoi travaille-t-on en ce moment au Collège des Bernardins?
Le Collège des Bernardins a à la fois une activité très récurrente, qui est une activité de formation. Il y a 4500 étudiants aujourd'hui inscrits à l'école cathédrale. Il y a également une très grande activité de débat, notamment dans le cadre de ce que nous appelons le pôle recherche, qui est divisé en 6 départements, coiffé par une chaire, dont le thème aujourd'hui, qui a commencé depuis le 1er janvier 2015, c'est le cinquième thème de la chaire des Bernardins, est l'humain face au défi du numérique. Et comme on le comprend tout de suite, il ne s'agit pas du tout de faire de la futurologie ou de la prospective sur ce que va nous apporter le numérique. La question qui se pose, c'est en quoi l'homme sera plus homme en se servant de cet outil qu'il a créé, ou au contraire, en sera-t-il plus asservi?
Belle question et qui va sûrement susciter de très importants débats. J'ai sous les yeux le très très beau, très bel ouvrage illustré qui rend compte justement de cette transformation, de cette renaissance du Collège des Bernardins, édité par le Collège lui-même. On peut le trouver sur place, j'imagine. On peut bien sûr se le procurer.
Librairie sur place.
Et puis je voulais citer le Dictionnaire amoureux de la Bourgogne de Jean-Robert Pitt, dont nous aurons l'occasion de reparler, mais qui a servi de, dont s'est beaucoup inspiré Christophe Dard pour préparer le récit d'aujourd'hui. Je voulais vous dire que le site officiel de Clairvaux 2015, hein, pour tout savoir sur les 900 ans de l'abbaye cistercienne de Clairvaux, c'est tout simplement www.clairvaux-2015.fr. Clairvaux-2015.fr. Il y a à Troyes une exposition sur Clairvaux, l'aventure cistercienne qui se tient là depuis aujourd'hui ou hier jusqu'au 15 novembre prochain. Et puis je voulais citer aussi deux ouvrages à la table des moines à la librairie Vuibert. Alors ça c'est sur la vie gastronomique si je puis dire des monastères, mais entre la Renaissance et la Révolution. Et puis beaucoup moins amusant, les vies emmurées au 19e siècle, Clairvaux de Dominique Fay et Lydie Hébernot. Ça c'est chez The Book Edition et c'est un livre sur Clairvaux transformé en prison justement. Merci beaucoup Bertrand Feydeau d'être venu nous parler de ce collège des Bernardins. Et je ne pense pas pouvoir donner de meilleurs conseils à nos auditeurs, où qu'ils soient de Paris ou qu'ils viennent à s'y trouver, comme a dit sur d'autres ondes un autre personnage, que de venir vous rendre visite dans le collège des Bernardins, dans le 5e arrondissement. C'est un lieu où la pensée est reine.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Laure. Via la page Facebook de l'émission, Laure vous demande, Franck Ferrand, les origines mythologiques de l'expression « ouvrir la boîte de Pandore ».
Ah, ça, c'est une belle histoire. Au départ, vous savez, il y avait Prométhée. Zeus avait créé Prométhée, et c'était un titan, il lui avait donné pour mission de créer l'homme, ce qu'a fait Prométhée. Mais voyant cette créature un peu faible et sans défense, Prométhée a donné à l'homme le secret du feu, il a volé le feu sacré de l'Olympe, et vous imaginez la colère de Zeus, bien entendu, qui d'une part va enchaîner Prométhée à son rocher avec cette espèce de supplice sans fin, vous savez, cet aigle qui venait lui manger tous les jours le foie, et le foie se régénérait, ça devait être très agréable. Et puis pour punir les hommes, Zeus, alors là, tenez-vous bien, et je sens qu'on va avoir quelques appels, n'est-ce pas Marion ? Zeus a créé la femme, tout simplement, parce que, évidemment, objet de tous les désirs, de tous les tourments possibles. C'est Héphaïstos lui-même, le forgeron, qui a créé cette femme. Athéna lui a insufflé la vie. On a donc créé Pandora, le cadeau de le cadeau général, si vous voulez. Il a créé la première femme, c'est Héra. Qui va lui donner sa Héra, la femme de Jupiter, enfin de Zeus, qui va lui donner sa curiosité. Et ça, c'est le premier défaut de Pandora. Zeus envoie Pandora à Prométhée. Celui-ci est méfiant, il refuse de l'épouser. Et pourtant, Épiméthée, son frère, Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après coup, se réjouit d'épouser la belle. Et avant de l'envoyer sur terre, les dieux lui offre une jarre avec une indication, ne surtout ouvrir cette jarre, cette boîte si vous voulez, allez, disons cette boîte, ça sera plus facile pour comprendre l'expression, ne l'ouvrir sous aucun prétexte. Alors le jeune couple Pandora et Épiméthée vit son bonheur, tout va bien. Je vous ai dit qu'elle était curieuse, Pandore, bien entendu, et finalement, elle n'y tient plus. Un jour, elle finit par autre, et comme ça, vraiment, elle y vient doucement, elle entr'ouvre un tout petit peu le couvercle de la boîte, et alors là, immédiatement, ce sont tous les maux qui s'échappent de la boîte, et la guerre, et la misère, la perfidie, la maladie, le vice, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. La pauvre Pandore a essayé de refermer la boîte par tous les moyens. Seule l'espérance n'a pas eu le temps de s'échapper de la boîte maudite, c'est-à-dire que si vous ouvrez aujourd'hui la boîte de Pandore, ben vous savez ce qui vous attend, bien entendu, mais au fond de cette boîte, vous aurez toujours l'ultime consolation d'y trouver un petit reliquat d'espérance.